RNV Podcast.
Voyage, voyage.
RNV.
Il est temps de parler voyage avec la chronique de Françoise. Voyage, voyage. Salut Françoise.
Bonjour.
On avait parlé avec toi de train la dernière fois. On peut faire le lien d'ailleurs entre la thématique du jour et le train, puisque tu nous emmènes en Inde, bien connue pour ses voyages fantastiques.
Merci. D'abord, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, hein, puisqu'effectivement, je suis partie quelque temps en Inde, dont la province de l'Assam. J'adore ce pays, j'adore y voyager et j'adore y faire des voyages en train.
L'Inde, un pays continent que tu connais, ma foi, plutôt bien, puisque c'était de loin pas la première fois que tu t'y rendais.
Oui, j'y vais depuis 2011, donc plus de 10 ans, et c'était mon 9e voyage.
Mmh. Qu'est-ce qui te plaît tant que ça dans cette région ?
Ça correspond à un livre que je feuilletais quand j'étais enfant. C'est ces livres Silva où il fallait coller, d'abord collectionner les points, hein, coller les images qui s'appelaient L'Inde aux 1000 visages.
D'accord.
Et j'imaginais effectivement un personnage qui avait beaucoup, beaucoup de visages. Et j'étais pas loin de la réalité, hein, parce que il y a plutôt des bras, des multiples sur ces dieux hindous. Dès l'instant où j'ai posé les pieds au Rajasthan, via Delhi, j'ai su que c'était un pays que j'adorerais et que je voudrais en savoir toujours plus.
La région est gigantesque. Est-ce que tu as l'occasion de la parcourir en différents endroits ?
Oui. Alors j'ai la chance d'avoir rencontré un organisateur de voyages spécialisé dans ce pays qui s'appelle Sac à dos, qui est à Lausanne. En passant, un grand merci et un petit coup de pub pour lui, sacado.ch à Lausanne. C'est quelqu'un de merveilleux qui accompagne ses voyages et qui s'est même associé avec un professeur de dessin pour faire des carnets de voyage. C'est un pays qui se prête énormément à cette pratique, de par sa poésie, de par ses explosions de couleurs. On ose la couleur en Inde, hein, particulièrement dans certaines régions, dont le Rajasthan. Et j'ai aussi voyagé en Inde du Sud, au Tamil Nadu, au Kerala, où il y a des temples absolument fabuleux, dont le Karnataka et la région de Bombay, qui s'appelle le Maharashtra, avec des grottes, avec des peintures bouddhiques absolument fabuleuses, hindouistes aussi d'ailleurs. Et puis aussi, cette fois, c'était la région de l'Assam, qui se trouve au nord-est, et qui est réputée pour son thé. Beaucoup de plantations de thé là-bas et un mélange de populations, puisqu'on est proche de la Chine, de la Birmanie, de la Thaïlande, tout à fait inattendu pour moi. Encore un autre visage de ce pays qui n'en finit pas d'en avoir pour moi.
Tu me parlais des couleurs, justement, hein, tu en parlais à l'instant, mais tu m'en as beaucoup parlé dans ce qu'on a pu échanger avant de faire cette intervention. C'est vraiment quelque chose qui saute aux yeux dès le moment où on arrive sur place. Il y en a partout.
Particulièrement, je dirais, dans les robes des femmes, les saris, les fameux saris. J'ai un jour osé demander à une indienne, mais comment vous faites ? Il fait tellement chaud et vous avez 7 mètres de tissu sur vous. Et elle m'a regardée, elle m'a dit, mais madame, s'il n'y a plus de saris, il n'y a plus d'Inde. On nous dit dans nos familles qu'on doit garder cette tradition parce que nous sommes... l'image, effectivement, de l'Inde, c'est pas la seule. Il y a aussi ces figures masculines extraordinaires avec des turbans, comme on en voit beaucoup chez les Sikhs, par exemple, ou au Rajasthan, qui sont aussi fascinantes pour la dessinatrice que je suis. Mais c'est magnifique. On a l'œil... C'est très photogénique, l'Inde, dans le fond. Où qu'on pose l'œil, il se passe un tableau.
Tu nous parlais de temples aussi, c'est quelque chose qui est assez iconique, assez en lien avec cette région de notre monde. Et c'est aussi ce côté de partage, d'échange que représente le temple.
Alors au temple, c'est assez plurireligieux l'Inde. Hein. Donc il y a l'hindouisme qui est pratiqué par les hindous. On ne peut pas se convertir à cette religion, on est hindou, du verbe naître. Ils ont des petits temples chez eux d'ailleurs, mais ils viennent aussi pratiquer religieusement dans leur grand temple, dédié à évidemment toute leur divinité, diverses et variées et nombreuses, hein, et leurs avatars. Certains en ont des millions d'avatars, hein, par exemple.
Énorme.
Oui. Et c'est un lieu de vie absolument extraordinaire, chatoyant. Beaucoup de fleurs pour les offrandes à faire, de la nourriture, et puis évidemment des pèlerins qui cheminent, discutent, vivent. Enfin, c'est vraiment très animé, contrairement à nos églises désertes.
Oui, puis austère.
Austère, voilà, absolument. Architecturalement, c'est des œuvres magnifiques. Hein, coupole et autres toits agrémentés évidemment de pigeons. Il y a des prêtres, mais c'est surtout des gens qui sont au service de, qui ne font pas spécialement d'études, hein, qui sont au service de celui qui le demande. Mais c'est une pratique assez individualiste, hein, l'hindouisme. Puis à part ça, il y a les sikhs. Comme je t'en ai parlé, j'adore aller dans les temples sikhs, qui sont toujours animés de musique fantastique, puisqu'on chante les écritures avec des accompagnements de tabla, d'orgue portatif, qui me ravissent, qui me... Vraiment, je ne manque jamais de visiter un temple sikh quand je vais en Inde.
La musique d'ailleurs, le chant, la danse d'ailleurs aussi, ce sont des choses qui sont assez représentatives aussi de l'Inde.
Oui. Alors, contrairement à ce qu'on croit, parce que nous, on a quand même une image de l'Inde, yoga, méditation, machin, ils sont moyennement là-dedans, mais effectivement, il y a beaucoup de pratiques de danse et de chant qui sont typiques. J'ai visité cette fois des monastères sur une île, sur le Brahmapoutre, où on a rencontré des moines danseurs. On a aussi vu des danses avec des bambous parce que c'est très utilisé pour tout construire. Donc on a même fait des danses en hommage à ce végétal très utilisé pour le quotidien. On n'en finit pas de découvrir des choses. Tu me diras peut-être qu'en Suisse aussi on n'en finit pas de découvrir des choses. Mais c'est vraiment une culture qui me fascine.
Ce qui est étonnant, c'est que c'est vraiment une culture qui est dans le mouvement. On a l'impression qu'il y a cette fête un peu éternelle avec justement cette explosion de couleurs, ces gens qui manifestent, qui chantent, qui parlent, qui partagent finalement en permanence. Il y a peut-être, tu parlais de religion individualisme, mais dans le partage généralisé.
Oui, alors là j'ai parlé que de l'hindouisme. Par exemple, les sikhs sont très tournés vers la charité, vers la communauté. Ils ont une grande vie communautaire. Ils ont des devoirs communautaires. Par exemple, quand on te prend tes souliers pour entrer dans un temple, c'est chaque fois une personne différente qui en prend soin, les met dans une caisse, va les ranger. Ça fait partie des tâches, de la liste des tâches qui leur sont attribuées pour servir le temple. Ils servent aussi des repas tous les jours en abondance. Hein. Le plus grand temple sikh de Delhi, on sert 6000 par exemple. Encore une fois, une manière de prendre soin d'autrui.
Parlons de décor un peu, parlons de paysage. Quels sont les endroits qui t'ont frappé sur ta dernière balade en Inde?
Alors, on a eu la chance de faire beaucoup de choses dans la nature. Entre autres, un parc ornithologique auquel on s'est rendu sur une barque en bois au petit matin. Enfin, c'était assez féerique, poétique. Et surtout, ça m'a donné beaucoup de sérénité. Il y a un calme dont le plaisir des choses simples. C'est pas compliqué. On regarde par terre et voilà. Comme je t'ai montré, j'ai fait des dessins de choses que j'ai vues par terre pendant cette promenade.
Ça peut être des feuilles mortes, des fleurs.
Voilà. Ou des branches, ou quelque chose qui esthétiquement m'a parlé. Quoi.
Au-delà de ça, comment sont les paysages là-bas? On imagine des grandes plaines, on imagine beaucoup d'eau, notamment avec ce fleuve.
Ce Brahmapoutre, qui est un des grands fleuves du monde, hein, sur lequel il y a des îles. Alors, une de celles qu'on a visitées, qui s'appelle Majuli, elle est sur une lagune, donc malheureusement condamnée à être submergé d'ici à quelques centaines d'années, peut-être même dizaines, au vu de l'évolution du climat.
Le fameux réchauffement climatique.
Voilà, avec beaucoup d'habitations au bon bout sur pilotis, qui sont construites par une population qui s'appelle les Missing, dont à peu près 90% habitent cette île. On s'est posé des questions sur la consanguinité aussi, hein. C'est quelque chose qu'on a, quand même remarqué, vu que les mariages sont arrangés souvent. Et puis, tu me demandais les paysages. Écoute, moi, ce qui m'a vraiment fascinée cette fois, c'était les plantations de thé. Parce que j'ai eu l'occasion de séjourner dans une plantation et donc de pouvoir aller me promener librement à l'intérieur de ces arbustes absolument somptueux, dont on veille toujours par la taille à ce qu'il y ait des feuilles de vert tendre, ce vert printanier si fabuleux, avec toujours dans un coin quelques cueilleuses qui viennent de l'Himalaya d'ailleurs, hein, parce que normalement le thé est plutôt planté en altitude,
okay.
Sauf dans cette région, qui est la région du thé au lait, nous a-t-on dit. Hein, les Anglais ayant passé par là, probablement, ils ont développé une qualité de thé qui va très bien pour être bu, avec un centimètre de lait au moins au fond de sa tasse.
Ok.
Eux, ils rajoutent en plus des petites épices et puis du sucre. Ça fait un chai. Moi, je le demandais toujours noir et je rajoutais le lait que je voulais parce que je trouvais qu'ils en mettaient trop. Et ça prenait beaucoup plus de temps que de se faire servir un chai normal comme les Indiens de l'Assam ont l'habitude de boire. Donc, pour finir avec ta question, les paysages de plantation de thé m'ont absolument subjugué. J'ai adoré ça.
Tu mets le doigt sur quelque chose d'important. Le temps, c'est quelque chose qu'on prend volontiers en Inde.
Oui, on prend son temps et surtout on vit l'instant présent. Mmh. Parce qu'on ne sait jamais de quoi la seconde suivante va être faite pour beaucoup. Et ils ont une capacité à vivre dans l'instant, ces gens, que j'ai trouvé nulle part ailleurs. Hein, on est souvent en train de planifier, de se projeter plutôt en avant, de ne pas être présent. Là, par exemple, je pourrais penser au souper de ce soir. Mais non, j'aime vivre pleinement cet instant avec toi. Et je ne pense même pas à ce qui va se faire quand on va terminer cet entretien. C'est à l'indienne. C'est vraiment... Ah, il se passe tellement de choses. Beaucoup de gens ont une vie difficile quand même en Inde. Donc, on est dans la vie de l'instant présent.
Tu évoquais tout à l'heure les Missing. Est-ce qu'on expliquerait en deux mots qui sont les Missing ?
Alors, Missing, le mi veut dire homme.
Ok.
Et assis, ça veut dire eau. C'est donc une population qui a l'habitude de vivre où il y a de l'eau. Donc là, en l'occurrence, on a été sur cette île. Et comme je t'ai montré la photo, ils ont des petites cahutes en bambou. Le bambou étant imputrescible, sur pilotis, pour faire face aux moussons. Et ce sont principalement, en tout cas sur cette île, des agriculteurs et des pêcheurs. Et ils sont, paraît-il, à peu près 850 000, répartis un peu dans toute l'Inde, mais beaucoup en Assam. Et ils ont comme origine le Tibet, qui n'est pas très loin, d'où leur physique un peu... buriné, avec des yeux bridés.
Montagnard, finalement.
Montagnard, ouais, particulier.
Tu parlais de la mousson, elle est très importante là-bas et régulièrement, il faut reconstruire.
Ben voilà, effectivement. Et c'est sur pilotis et on ne sait jamais et on voit bien que ça s'enfonce. Et, mais bon, ils ont l'habitude de vivre comme ça. Hein.
C'est marrant hein, de se mettre dans des endroits comme ça où on sait que finalement tout va être détruit mais par Venise, la force de la nature.
Mais Venise, c'est la même chose. Si tu veux, tu vois la lagune, ça s'enfonce. On ne parle que de Venise qui s'enfonce dans les eaux et qui va disparaître. Bah c'est un peu ça, mais c'est pas encore le moment.
C'est ça.
Ça prendra encore quelques années, mais c'est pas voué à un avenir extraordinairement long, on va dire.
Il n'y a pas ce côté aussi régulier qu'une mousson qui revient évidemment chaque année et parfois évidemment un peu plus violente. Si tu devais donner envie à quelqu'un de partir en Inde, qu'est-ce que tu mettrais en avant ?
Je mettrais en avant justement ces mille visages, ces couleurs, cette vie, cette beauté permanente, cette vie extraordinaire, grouillante. Je ne peux pas expliquer ça. Il faut que les gens viennent. Et puis, je sais qu'il y en a qui reprennent l'avion le lendemain. Hein. Ça fait un effet. Mm-hmm. Inde. Y a des choses qui se passent. Il y a beaucoup effectivement de courants spirituels. Comme je t'ai dit, je vais dans un temple sikh et je sens des choses qui m'élèvent. Je ne suis pas quelqu'un de très branché sur l'élévation personnelle. Mm-hmm. Mais c'est effectivement un pays très spirituel. Et puis tellement, justement, coloré. Ces femmes sont magnifiques. Elles prennent soin de leur habillement, de leur apparence. Dans le sud, elles mettent encore des fleurs dans leurs cheveux. Enfin, c'est un spectacle de coquetterie absolument fascinant. Quoi.
Est-ce que, au-delà de cette coquetterie, il n'y a pas aussi ce côté naturel dans le rapport humain avec une certaine spontanéité? Tu me montrais ton carnet de dessin dans lequel des gens sont venus spontanément dessiner eux aussi. Oui. C'est quelque chose qu'on connaît peut-être moins aussi sous nos latitudes.
Alors, c'est vrai qu'ils s'intéressent à ce qu'on fait de manière très, très chaleureuse. Ils viennent beaucoup voir sans être intrusifs, quand on se met à dessiner dans un coin. Ils sont d'un contact très facile. Ils aiment beaucoup rendre service, accueillir. Non, ils sont, je veux dire, j'ai très bon contact en tout cas avec les Indiens que je côtoie pendant ces voyages. Mm-hmm. Mais encore une fois, j'ai la chance de voyager avec quelqu'un qui est bien introduit. Le premier voyage qu'on a fait, je me souviendrai toute ma vie, on arrive à Jaisalmer, qui est une ville architecturalement fabuleuse dans le Rajasthan. On a vu arriver quelqu'un en courant, disons le prénom de notre agent de voyage, qu'il n'avait pas vu depuis des années, tellement mm-hmm. il était heureux de le voir. Ils sont attachants et ils s'attachent. Hein. J'ai un guide aussi qui m'envoie régulièrement des mots pour demander de mes nouvelles, pas pour que... Bah oui, probablement si j'ai envie de refaire un voyage avec lui, il sera content, mais parce qu'on a eu un bon contact. Mm-hmm.
Vous avez partagé quelque chose.
On a effectivement eu un bon temps ensemble quand on a fait ce voyage. Il a eu beaucoup de plaisir à nous satisfaire. On avait demandé avec l'ami avec qui je voyageais de voir le plus possible de petites usines, de petites entreprises, enfin la vie de tous les jours. Il nous a emmenés dans un endroit où on fait des pains de canne à sucre, enfin de sucre. Il nous a emmenés à une bourse au coton pour voir comment ça se négociait avec l'État. Il nous a emmenés dans une fabrique de bateaux. Enfin, il a eu plaisir à ce qu'on s'intéresse à
sa culture, son pays.
Oui, absolument.
Du coup, la question qu'on a envie de te reposer, c'est tu y retournes quand ?
L'année prochaine.
Déjà ?
Si tout va bien. Oui, oui. Moi, j'ai maintenant, j'ai quand même, j'ai 67 ans cette année. Et, ces voyages sont quand même assez fatigants. Je profite.
Tu prends rendez-vous donc pour dans quelques mois ?
Yes.
Eh bien, merci Françoise de nous avoir parlé de l'Inde. Et puis, vivement la prochaine balade.
Merci pour ton intérêt.
Avec plaisir. Salut.
Au revoir.
www.radionv.ch